France Culture.
Le journal est signé Héloïse Roger. Bonsoir Héloïse.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. La présidence des Républicains a un nouveau candidat, Bruno Retailleau. Après Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez l'annonce à son tour dans un entretien au Figaro et en profite également pour évoquer la problématique candidature de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. 100 milliards d'euros d'investissement pour décarboner le réseau électrique. On revient en détail sur les annonces du réseau de transport électrique. Notre dossier du soir, c'est sur la décarbonation cette fois de l'industrie aéronautique. Hakim Kasmi est allé à la rencontre des avionneurs et des équipementiers. Un acte horrible et improbable attentat en Allemagne à Munich, l'attaque à la voiture bélier électrise la campagne électorale. Et puis la France envisage d'assouplir ses sanctions envers Damas pour soutenir le processus de transition. Laurent Wauquiez entre à son tour dans la course à la présidentielle des Républicains. Après le ministre de l'Intérieur, c'est au tour du chef de file des députés LR d'annoncer sa candidature. Dans un entretien au Figaro, le grand rival de Bruno Retailleau en profite pour lui glisser un tacle. La France a besoin d'un ministre de l'Intérieur à temps plein et le parti a besoin de tout sauf d'une guerre des chefs. Les cadres des Républicains se sont mis d'accord sur la date du 17 mai pour désigner le nouveau président du parti, une date qui pourrait être validée ce soir. Et dans le journal, Laurent Wauquiez en profite aussi pour évoquer la possible nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Son profil pose problème, affirme le patron des députés LR. Stéphane Robert, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Il n'y a pas qu'aux députés Les Républicains que cette candidature pose problème.
Non, de nombreux parlementaires à l'Assemblée nationale comme au Sénat se disent dubitatifs et mécontents, voire pour certains très mécontents. Pour Laurent Wauquiez, c'est la proximité de Richard Ferrand avec Emmanuel Macron qui pose problème, ainsi que sa qualité d'ancien socialiste, ce qui pourrait entacher les décisions du Conseil constitutionnel, dit-il, de partialité. Cet avis est partagé par de nombreux députés de son groupe à l'Assemblée, mais aussi par un certain nombre de sénateurs, membres du groupe Les Républicains au Sénat. Dans les deux chambres du Parlement, la nomination de Richard Ferrand est perçue comme une décision de copinage. C'est Macron qui recase un de ses proches, dit-on, au Palais Bourbon comme au Palais du Luxembourg, après qu'il a été battu aux législatives en 2022. Et il n'a aucune compétence juridique, ce qui est tout de même un problème pour présider une telle institution, commente un conseiller parlementaire. Et il se dit la même chose chez les anciens amis socialistes de Richard Ferrand. Franchement, ce n'est pas à la hauteur, se désole un sénateur socialiste. Chez nous, tout le monde va voter contre, assure-t-il, et c'est valable pour toute la gauche sénatoriale. Si à cela s'ajoute un certain nombre de défections à droite et au centre, voire quelques votes contre, ça pourrait poser problème. Pour invalider la nomination de Richard Ferrand, il faut que les 3/5 des votants des deux commissions des lois, de l'Assemblée et du Sénat, votent contre. Ça veut dire 74 parlementaires sur 122. Normalement, ça passe. Et c'est temps de se rassurer dans les rangs macronistes. Certains députés du camp présidentiel ont fait les comptes et dénombrent 60 parlementaires d'opposition susceptibles de voter contre. Ça veut dire qu'on a de la marge, assure un député. Mais Richard Ferrand, lui, commence à s'inquiéter. Certains rapportent qu'il fait campagne et multiplie les coups de téléphone tout en bachotant les manuels de droit public pour préparer son audition.
Merci Stéphane Robert. Le réseau de transport électrique RTE annonce son vaste programme d'investissement pour les années à venir. Près de 100 milliards d'euros d'ici 15 ans pour renouveler un réseau électrique qui a une moyenne d'âge de 45 ans dans un contexte de crise climatique. Annabelle Grolier, bonsoir.
Bonsoir Héloïse.
On peut parler d'une révolution électrique ?
L'histoire, c'est la grande bascule. La décarbonation par l'électrification, résume le président du directoire du réseau de transport d'électricité. Il faut en effet s'attendre à voir croître la consommation d'électricité qui va se substituer aux énergies fossiles. La voiture électrique en est un bel exemple, mais l'industrie est aussi très demandeuse. L'année dernière, plus de 140 projets ont déjà signé un contrat de raccordement pour une puissance cumulée de 21 gigawatts, soit plus du double de la puissance utilisée actuellement par l'industrie connectée au réseau de transport. Et les demandes continuent d'affluer, notamment pour les centres de données, précise RTE. Et on sait maintenant, Héloïse, qu'ils seront 35.
Et le réseau pourra-t-il encaisser ?
Eh bien, le réseau électrique français a des atouts. D'abord, sa capacité à accueillir la production issue de nos centrales nucléaires, parmi les plus grosses d'Europe, et il est peu congestionné, contrairement à des pays comme l'Allemagne. Il est aussi assez résistant aux intempéries, notamment les tempêtes, grâce à la sécurisation et l'enterrement des lignes réalisées après la tempête de 1999. Côté architecture, elle va devoir, c'est sûr, être redimensionnée, car la part de l'électricité sera portée au-delà de 50% des besoins énergétiques de la France d'ici 2050, contre un peu plus d'un quart aujourd'hui. RTE prévoit donc le renouvellement de 23 500 km de lignes, 85 000 pylônes et l'adaptation du réseau aux fortes chaleurs et aux futures crues centennales. Ce réseau en forme de toile d'araignée devra donc s'intégrer et intégrer les futurs réacteurs nucléaires EPR, absorber les flux de production issus des futurs parcs éoliens en mer situés dans l'Ouest et les faire transiter vers les grandes industries davantage à l'Est ainsi que vers le reste de l'Europe.
Et Annabelle, l'énergie est l'enjeu majeur de notre transition écologique mais aussi bien sûr économique.
Eh bien oui, l'énergie énergétique et l'énergie électrique est un enjeu hautement économique. La France a exporté en 2024 pour 5 milliards d'euros d'électricité, un record entre la production et la consommation. Il ne faut jamais oublier qu'il y a le réseau qui transporte cette électricité, dans lequel on a investi 2,3 milliards en 2024, un investissement qui devra plus que tripler au cours des 5 prochaines années pour atteindre 7,5 milliards d'euros.
Les précisions d'Annabelle Grelier. La régie publique Haute-Paris se veut rassurante. Quelques semaines après la publication d'une enquête conjointe de l'UFC Que Choisir et de l'ONG Génération Future qui avait révélé la présence dans l'eau d'acide TFA, un PFAS non réglementé, l'eau de Paris peut donc être bu en toute sécurité, assure la régie grâce au traitement appliqué contre ces polluants éternels. Véronique Roberotte, bonsoir.
Bonsoir.
Les données publiées sur l'ensemble de l'année 2024 assurent donc que l'eau distribuée à Paris est parfaitement conforme aux normes sanitaires. C'est en tout cas ce que dit Haute Paris.
Oui, l'eau de la capitale respecte les normes sanitaires. Haute-Paris, qui traite cette eau, a pour la première fois communiqué ses données 2024 relatives au suivi, notamment, vous l'avez dit, du TFA et de 20 autres PFAS appelés à faire partie d'un futur contrôle sanitaire obligatoire. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et les résultats 2024 montrent une conformité de l'eau de Paris pour les PFAS réglementés. Anne-Sophie Leclerc, directrice générale adjointe d'eau de Paris.
On arrive effectivement à détecter aujourd'hui des PFAS dans l'eau, en taux de présence quand même qui sont très très faibles. Il faut rappeler que sur les 20 PFAS qui vont commencer à être réglementés, on n'en a que 6 qu'on retrouve dans l'eau analysée par exemple sur le réseau d'eau de Paris. Sur ces 6, on est sur une somme de PFAS qui est très inférieure au seuil réglementaire de 0,1 microgramme litre. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la potabilité de l'eau et sur ses effets sur la santé.
La Haute-Paris s'inquiète en revanche d'éventuels surcoûts de la décontamination de l'eau polluée au PFAS, estimée à des milliers, ces PFAS dans l'environnement. Tous ne sont pas détectés pour l'instant et en cas de renforcement des normes, les traitements vont coûter de plus en plus cher, explique Dan Lert, le président d'Haute-Paris, qui refuse que ce soit aux citoyens de payer.
Il faut d'urgence interdire à la source ces polluants parce que les coûts de la dépollution, notamment par rapport aux polluants éternels, vont se renforcer. Donc il est inacceptable que les usagers soient les seuls à payer sur leur facture d'eau ces coûts de dépollution qui vont augmenter avec le renforcement des normes sanitaires. Ce sont aux multinationales de la chimie qui connaissent la toxicité de ces produits depuis des décennies de payer le coût de ces dépollutions, pas aux usagers, pas aux opérateurs d'eau potable, pas aux collectivités. C'est pour ça que nous avons décidé qu'Haute Paris déposerait une plainte contre X au pénal pour pollution de nos réseaux d'eau, pour que les responsables industriels, qui sont les pollueurs, payent la dépollution.
Un récent rapport parlementaire estime à l'avenir qu'il pourrait la décontamination de l'eau, le coût de traitement des eaux usées dans l'Europe pourrait atteindre les 238 milliards d'euros par an.
Merci Véronique Roberotte. Une enquête ouverte par le tribunal de Paris contre Nestlé. Une annonce qui intervient quelques jours après les révélations de la cellule d'investigation de Radio France et du Monde sur le lobbying mené par la multinationale pour commercialiser ses eaux minérales coûte que coûte et en dépit des alertes des autorités sanitaires sur l'utilisation de différents traitements de purification qui sont interdits. La France interdit à son tour la commercialisation des puffs. Après la Belgique, ces cigarettes électroniques jetables très largement consommées par les jeunes ne pourront plus être vendues dans l'Hexagone après adoption cet après-midi définitive au Sénat. C'est une taxe qui doit rapporter entre 800 et 850 millions d'euros de budget à l'État. Le Parlement et le gouvernement viennent de confirmer la hausse de la taxe des solidarités sur les billets d'avion. Cet après-midi, Éric Lombard, le ministre de l'économie, était en déplacement sur le site d'Airbus à Toulouse pour interpeller le secteur sur la décarbonation de l'industrie aéronautique. Actuellement, elle représente entre 2 et 3% des émissions de CO2 dans le monde. Pour comprendre comment elle y parviendra et quelles sont les solutions, Hakim Kasmi est allé à la rencontre des avionneurs et des équipementiers dans le sud-ouest de la France. C'est notre dossier du 18h.
Nous sommes à l'Innovation Hub, sur le site Thalès de Bordeaux. Sur le plateau, une cinquantaine d'ingénieurs travaillent sur les projets du futur, comme la réduction des traînées de condensation, qui sont ces traînées blanches que produisent les moteurs d'avion à cause de la suie qu'ils dégagent, ce qui génère des nuages blancs. Un phénomène qui se produit surtout à haute altitude, dans les zones froides, saturées de glace, et qui a pour conséquence de maintenir la chaleur durant la nuit, ce qui contribue au réchauffement climatique. Pour y remédier, Thalès vient donc de développer, avec la compagnie française aérienne Amelia, un dispositif qui doit permettre de les réduire de 40%, notamment en adaptant l'altitude des avions en fonction de la météo, comme nous l'explique Denis Bonnet, vice-président en charge de la recherche et de l'innovation chez Thalès.
La bonne nouvelle, c'est que quand vous regardez le ciel, vous voyez que des traînées, il n'y en a pas tout le temps. Et en réalité, ces traînées, elles ont lieu quand les avions passent dans certaines zones très particulières où il fait à la fois froid et humide. Et donc, il suffit parfois de faire voler l'avion légèrement au-dessus ou légèrement en-dessous pour réussir à les éviter. Et la bonne nouvelle, c'est que les scientifiques disent qu'il y a entre 3 et 5% des avions qui font entre 50 et 80% de l'effet. Donc, il suffit pour ces avions-là de les faire voler légèrement plus haut, légèrement plus bas, et donc d'éviter en fait cette zone pour réduire très significativement l'effet.
Mais la réduction du CO2 devra passer également par les moteurs qui représentent 40% du mix énergétique pour réduire le dioxyde de carbone. Si les carburants durables sont une solution, à court terme pour les longs courriers, en revanche pour les courts et les moyens courriers, cela passera par l'électrification des avions, à l'image du motoriste Safran qui vient de sortir le premier moteur d'avion électrique certifié dans le monde. L'Ingénus 100, qui a demandé 10 ans de recherche, sera d'abord destiné aux petits avions de 4 places. Il sera produit à raison de 1000 exemplaires par an dès l'année prochaine, notamment sur le site de Niort, en France, souligne Bruno Bélanger, le président de Safran Electronical and Power.
Mais le moteur électrique, finalement, on est sur des choses qui sont à la limite de la technologie, parce qu'il faut des moteurs électriques les plus denses, les plus compacts possibles, les moins lourds possibles, et capables de les délivrer beaucoup de puissance. Après, en termes de difficultés, il y a toute la démonstration associée à la certification, démontrer que l'équipement est suffisamment fiable et robuste pour assurer la sécurité des vols. Le moteur, il a vu la pluie, la glace, le froid, il a été choqué, il a été vibré, il a reçu des ondes électromagnétiques, il a reçu la foudre, etc. etc. Donc oui, il y a beaucoup de contraintes environnementales à prendre en compte pour démontrer la sécurité des vols.
Ce moteur doit permettre aussi de développer les petits avions régionaux hybrides, comme celui que doit commercialiser la start-up toulousaine Aura Aero d'ici 2029 et qui pourra transporter jusqu'à 29 passagers, espère Jérémy Cossade, son dirigeant.
Alors ça dépend de la mission. La mission typique pour un avion régional, c'est pour ça aussi qu'on a sélectionné l'avion régional, c'est des missions qui font en général aux alentours des 400 km. Voilà, le gros des vols, c'est aux alentours des 400 km. Sur un vol de 400 km, on est à peu près à 50% du temps de vol qui est en tout électrique, 50% du temps de vol qui est en hybride.
Pour autant, si l'Europe veut atteindre la neutralité carbone dans l'aviation d'ici 2050, avec une croissance du trafic de 1% par an, à ce rythme, l'innovation technologique ne suffira pas à elle seule, préviennent déjà les ONG environnementales. La question de la limitation des vols deviendra donc un moment incontournable si elle souhaite vraiment atteindre son objectif.
Le dossier du 18h signé Hakim Kasmi. Les accusations se multiplient et la classe politique s'indigne. indigne après les accusations de violence à Notre-Dame de Bétharram. Manuel Bompard dénonce un scandale d'État et appelle à la démission du Premier ministre. Pour le coordinateur politique LFI, François Bayrou avait connaissance des violences et des agressions sexuelles dans cet établissement catholique fréquenté par ses enfants. Le député insoumis Paul Vanier vient, lui, de demander dans un courrier la création d'une commission d'enquête parlementaire. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Une agitation politique, donc, au risque de faire passer les victimes au second plan.
Bien sûr que l'attitude de François Bayrou est scandaleuse, estime Arnaud Gallet, président de l'association de lutte contre les violences faites aux mineurs mouv'enfants. Mais il regrette qu'aujourd'hui, le fond du problème ne soit pas traité.
À partir de quand est-ce qu'on se dit qu'aujourd'hui, les enfants sont en sécurité, les enfants qu'ils accueillent aujourd'hui? Mais on ne sait pas aujourd'hui, en fait. Que fait l'éducation nationale? On ne sait pas. Il y a un contrat. On n'arrête pas de dire, c'est pas un contrat avec le bon Dieu. S'ils sont sous contrat avec l'éducation nationale, bon, bah, ils doivent quand même garantir, au bout d'un moment, que l'accueil des enfants est sécurisé.
En 2023, l'établissement privé, rebaptisé le Beau Rameau, accueillait encore 520 élèves. Les derniers faits dénoncés, eux, remontent à 2010, ce qui ne signifie pas, selon Arnaud Gallet, que cette culture a disparu de l'enceinte de l'établissement. Il ajoute que Bétharram n'est pas un cas isolé.
Si on regarde bien finalement Bétharram, c'est ni plus ni moins la résultante de ce que nous avait dit le rapport Sauvé en disant il y a 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'église en 70 ans. 23% de ces crimes ont été perpétrés dans des établissements privés sous contrat. Combien de Bétharram en réalité?
Pour la présidente de l'association La Voix de l'Enfant, Martine Brousse, cette affaire doit donc faire réagir le gouvernement.
Moi je l'interpelle pour lui demander pourquoi aujourd'hui, Conseil des ministres, là où le haut-commissaire à l'enfance n'a pas été nommé. Le président de la République a annoncé le 28 décembre dernier pourquoi nous n'avons pas la nomination. Les enfants n'attendent plus.
Le décret pour la nomination d'un haut commissariat de l'enfance a en effet été publié au journal officiel mardi, mais sans être suivi pour l'heure d'une nomination.
Les précisions de Jeanne Serrin. En Allemagne, Olaf Scholz dénonce un acte horrible et évoque un improbable attentat. Ce matin, une voiture bélier a foncé dans la foule lors d'une manifestation à Munich. Le suspect est un Afghan demandeur d'asile. Il doit être puni et quitter le pays, a déclaré le chef du gouvernement allemand. Sébastien Baer, bonsoir.
Bonsoir.
À 10 jours des élections législatives anticipées, la campagne électorale s'enflamme. Elle est déjà marquée par une très forte polarisation sur les questions d'immigration et de sécurité intérieure.
Oui, et dans quelques heures va débuter même un débat organisé avec les quatre principaux candidats aux élections législatives qui se tiennent dans 10 jours. Et une nouvelle fois, l'immigration, les questions de sécurité intérieure devraient se retrouver au cœur des échanges, comme dimanche d'ailleurs, lors du duel entre le chancelier Olaf Scholz et son rival conservateur Friedrich Merz. Aschaffenburg, Magdebourg, Solingen, Mannheim et donc ce matin Munich. Les attaques commises par des ressortissants étrangers, notamment afghans, se multiplient ces derniers temps en Allemagne. L'immigration, thème principal de la campagne, éclipse les autres sujets, y compris l'économie, pourtant préoccupation majeure des Allemands. Cette vague de violence a mis une pression très forte sur le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz. Le SPD, accusé de laxisme ces 3 dernières années, a donc été obligé de se positionner. Il a renforcé l'arsenal contre l'immigration illégale. Hier, Olaf Scholz a annoncé la prolongation de 6 mois des contrôles aux frontières. Le chancelier a aussi vanté l'efficacité de sa politique migratoire, avec 47 000 refoulements aux frontières et la baisse d'un tiers des demandes d'asile entre 2023 et 2024. L'extrême droite est en forte progression. L'AFD est crédité de 20% des intentions de vote, ce qui est 2 fois plus qu'en 2021. Tous les partis durcissent le ton sur l'immigration. On est là, bien loin désormais, de la Willkommenskultur d'Angela Merkel. Vous savez, cette culture de l'accueil de l'ex-chancelière qui avait ouvert grand les portes de l'Allemagne aux réfugiés en 2015 et en 2016.
Précision de Sébastien Baer, notre correspondant en Allemagne. Et par ailleurs, un attentat contre un centre d'accueil de demandeurs d'asile a été déjoué aujourd'hui sur le territoire allemand. Un suspect de 21 ans a été arrêté dans l'est du pays. Des actes qui surviennent à la veille de la conférence internationale sur la sécurité. L'Ukraine participera bien au pourparlers de paix avec la Russie. Le Kremlin l'assure cet après-midi au lendemain d'une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il y aura à la fois un volet bilatéral russo-américain de ce dialogue et un volet lié à la participation de l'Ukraine, précise le porte-parole du président russe. La participation de l'Union européenne n'a, elle, pas été évoquée. Hier, le président américain, premier soutien de Kiev, a créé l'inquiétude en convenant de négociations immédiates avec son homologue russe. Écoutez la réaction de Volodymyr Zelensky.
Nous avons déjà eu trois conversations avec le président Trump. Je ne comprends donc pas qu'il dise qu'il était prioritaire pour lui de parler d'abord avec la Russie. Ce n'est pas très agréable. Vous savez comment est la société ukrainienne, comment nous tous et les Européens réagissons. Il s'agit d'abord et avant tout de l'Ukraine. Et rien ne peut être décidé sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Les réunions entre l'Ukraine et l'Amérique sont la priorité pour nous. Et ce n'est qu'après ces réunions, après l'élaboration d'un plan pour arrêter Poutine, que je pense qu'il sera juste de parler aux Russes.
À Paris, une conférence internationale pour soutenir le processus de transition en cours en Syrie. C'est la troisième du genre depuis le renversement de Bachar al-Assad il y a plus de deux mois. L'Union européenne, par la voix du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit travailler à une levée rapide des sanctions économiques dans différents secteurs d'activité. Et la France envisage aussi de faire un pas vers Damas. Macron propose aux autorités de transition de s'associer à la lutte contre Daesh. Plus de précisions dans le journal de 19h. Un point sur la météo. L'air froid gagne l'ensemble des régions du nord-est cette nuit. Sur toute la moitié ouest de la Bretagne aux Pyrénées, les nuages seront présents accompagnés de passages pluvieux. Quelques grisailles à prévoir dans le sud-est, mais le soleil sera bien présent tout de même. Côté température à prévoir, des gelées sur un large quart nord-est allant de moins 4 à moins 1 degré. De la Bretagne au sud-ouest et sur le bassin méditerranéen, les températures sont comprises entre 5 et 10 degrés.